Merci d'être avec nous sur RFI. Il est maintenant 15h, temps universel, 16h, ici à Paris.
Charlotte Hydrac.
Bonjour, l'armée syrienne l'a reconnue aujourd'hui. Une large partie de la ville d'Alep a changé de main. Désormais contrôlée par une alliance de djihadistes et de rebelles après une offensive fulgurante. Une grande partie du Kosovo privée d'eau après une attaque sur un canal vital pour l'approvisionnement. Les autorités accusent la Serbie, Belgrade, dément formellement. À suivre aussi, pas de changement en vue en Irlande après les législatives d'hier. Les partis centristes du gouvernement sortant sont bien partis pour rester au pouvoir. La politique en France et Jean-Luc Mélenchon qui affine sa stratégie alors que le gouvernement est menacé par une censure. Et puis le bon accueil des spectateurs pour le film français En Fanfare, l'histoire de deux frères qu'a priori tout oppose sauf l'amour de la musique. Tous les cinémas du monde à suivre dans 10 minutes. Le gouvernorat ou encore le siège de la police sous contrôle des djihadistes et des rebelles à Alep en Syrie, donc après une offensive éclair. L'armée syrienne a reconnu aujourd'hui la présence de combattants anti-régime dans de larges parties de la ville. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de plus de 300 tués dans cette offensive. Il indique aussi que l'armée russe qui soutient le régime de Bachar el-Assad a mené des raids aériens pour la première fois depuis 2016. Et sur place à Alep, la population vit dans la peur. Salam Kawakibi est originaire de la ville. Il est directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques basé à Paris.
Il y a plusieurs sortes de peur. La peur au sein des gens qui ont soutenu le régime. En majorité, ils ont quitté la ville avec les dernières unités militaires du régime. Ou bien la peur des gens qui ont une image assez inquiétante des forces des rebelles. Parce que, à savoir que il y a plusieurs composantes au sein de ceux qui ont pénétré Alep. Il y a les islamistes, bien entendu, mais il y a aussi les résidus de l'armée libre, il y a aussi d'autres brigades. Pour l'instant, ils diffusent des vidéos et des messages sur les réseaux sociaux comme quoi ils vont pas se venger et toutes les communautés pourront exercer leur foi et être tranquilles. Mais tout ça, c'est de la propagande. Il faut attendre les heures prochaines pour être sûr que ces rebelles vont respecter la situation sociale et communautaire de la ville d'Alep.
Voilà le directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques, joint par Guilhem Deltay. C'est à la frontière entre la Syrie précisément et le Liban que l'armée israélienne a frappé ce samedi pour viser, selon elle, des sites utilisés par le Hezbollah pour acheminer des armes. L'armée israélienne indique aussi avoir mené des frappes aériennes contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Et cela après l'accord de cessez-le-feu conclu cette semaine entre l'État hébreu et le mouvement chiite libanais. Plusieurs personnes arrêtées au Kosovo sans plus de précision à ce stade sur leur identité après l'explosion qui a endommagé la nuit dernière un canal crucial pour le secteur énergétique du pays. Des milliers d'habitants sont privés d'eau. Le Kosovo a directement accusé la Serbie d'être derrière cette attaque. De son côté, Belgrade dément et dénonce, je cite, des accusations irresponsables et sans fondement. Le dépouillement est toujours en cours, là en Irlande, après les élections législatives d'hier. Mais déjà, les deux partis centristes, le Fine Gael et le Fianna Fáil, semblent bien partis pour rester au pouvoir en coalition devant le parti nationaliste Sinn Féin. L'Irlande serait donc l'un des rares pays ayant voté cette année à ne pas avoir renversé le gouvernement en place, Clémence Pénard.
Croisé devant un bureau de poste, Paul voit moins d'attrait pour un changement radical depuis la victoire de Trump aux États-Unis et ses menaces sur l'économie irlandaise.
Je pense qu'il est essentiel de préserver la stabilité du gouvernement et d'assurer que les recettes continuent d'arriver. La stabilité, c'est primordial et je doute que le Sinn Féin puisse nous la garantir à ce stade. Personne ne sait vraiment ce qu'ils feraient s'ils accédaient au pouvoir.
Le Sinn Féin, le parti historique d'opposition qui prône la réunification réunification de l'Irlande, a pourtant fait de très bons scores et aurait même une légère avance par rapport aux deux partis au pouvoir. Mais l'un comme l'autre ont rejeté tout au long de la campagne une alliance avec le Sinn Féin, au grand dam de Hazel.
Tout ce cirque avec le Fine Gael et le Fianna Fáil qui font semblant de se battre, puis qui finalement forment une coalition, c'est totalement absurde. Ils ne veulent tout simplement pas lâcher le pouvoir. Ça fait 14 ans que le gouvernement répète sans cesse les mêmes choses encore et encore. J'espère sincèrement qu'il y aura un véritable changement cette fois, car nous en avons besoin.
À la mi-journée, le Fine Gael et le Fianna Fáil sont bien placés pour continuer à être les deux grands piliers de la coalition au pouvoir en Irlande. Ne restera plus qu'à trouver un troisième petit parti d'appoint, les travaillistes ou bien les verts, pour former une majorité solide. Clémence Pénard, Dublin. RFI.
En Géorgie, 107 personnes ont été arrêtées après les nouvelles manifestations d'hier soir. Mobilisation contre la décision du gouvernement de repousser les discussions sur l'adhésion du pays à l'Union européenne. En France, les sénateurs terminent ce week-end l'examen du volet recettes du budget 2025. Le Sénat a globalement approuvé les mesures phares donc de ce texte proposé par le gouvernement, mais veut diminuer l'effort demandé aux collectivités territoriales. Et cela alors que le gouvernement de Michel Barnier est menacé par une censure dès le début de la semaine prochaine sur les textes budgétaires. Si le Rassemblement national et la gauche votent ensemble la motion, alors le gouvernement tombera. Mais les partis de gauche au sein de l'Alliance du Nouveau Front Populaire ne semblent pas sur la même ligne, sur la direction à suivre. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, lui, a un plan pour la suite. Il a précisé sa stratégie hier soir, Victorien Villaume.
L'été dernier, la France Insoumise voulait destituer le président Emmanuel Macron. 4 mois plus tard, Jean-Luc Mélenchon parie toujours sur le départ du chef de l'État.
Manuel Bompard vient d'envoyer une lettre au ministre de l'Intérieur pour lui demander comment il comptait organiser des élections présidentielles si le cas se présente. Ça a créé une certaine émotion.
Si présidentielle anticipée il y a, le chef de file de la France Insoumise propose à la gauche une candidature commune autour du programme du nouveau Front Populaire.
Nous sommes donc en effet partisans d'une candidature commune, on se l'est dit 10 fois, sur la base du programme. Et comme nous irons avec le programme... Eh ben, viens qui veut, il est bienvenu.
Mais dans le camp de la gauche, le sujet fait débat. L'ancien président François Hollande, par exemple, se dit catégoriquement contre. Jean-Luc Mélenchon règle justement ses comptes avec une partie de la gauche.
Nous avons compris que les communistes ne veulent plus le Parti communiste. Nous avons compris que la droite du Parti socialiste ne veut plus. Et nous refusons de faire chemin avec des gens qui nous insultent en cours de route.
Si le leader insoumis n'annonce pas ici sa candidature, l'un de ses proches déclarait récemment qu'il était le mieux placé à gauche en cas d'élection. Un scénario pourtant rejeté en bloc par les partenaires socialistes et communistes.
Et si on travaillait plutôt à ce qui nous rassemble, c'est ce que dit, mais pas seulement, le film français En fanfare, sorti cette semaine et bien accueilli par le public ces derniers jours. C'est l'histoire de deux frères séparés pendant l'enfance et confiés à des familles adoptives de milieux très différents. Cette idée de départ peut être traitée sur un mode dramatique ou comique, ou alors sur une troisième voie qui existe, c'est celle empruntée par ce film, et c'est réussi, Sophie Torlotin.
D'un côté, Thibaut est un chef d'orchestre réputé, dirigeant des ensembles symphoniques à travers le monde. De l'autre, Jimmy vit dans le nord de la France et joue du trombone en amateur dans une fanfare.
Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone ?
Thibaut et Jimmy sont frères biologiques et vont l'apprendre par hasard.
Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie.
Ah merde.
Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible.
Ah merde.
Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur.
Ah putain. Enfin, je veux dire, merde.
Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère.
Le réalisateur Emmanuel Courcol arrive à désamorcer avec élégance et humour des situations dramatiques. En fanfare n'est pas qu'une histoire de résilience et de fraternité. Ce film aborde avec justesse la question du déterminisme social. Les deux frères de sang ont la musique en héritage, mais l'un a été adopté par une famille aisée et l'autre peine à joindre les deux bouts. Évitant les stéréotypes, filmant une véritable fanfare du Nord, le réalisateur rend hommage avec sincérité au milieu ouvrier et aux fortes solidarités du bassin minier français.
En fanfare sur les écrans français, donc avec entre autres les acteurs Benjamin Laverne et Pierre Lottin. On est bien au cinéma, on y reste tout de suite. Le magazine Tous les cinémas du monde. À tout à l'heure.